Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Ida Lupino faire face avec Yola Lekaïnec et Sophie-Catherine Gallet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. C'est une icône un peu mythique du féminisme. Son nom ressurgit régulièrement quand il s'agit de compter sur les doigts de la main d'un estropié les rares femmes qui ont su gagner leur place derrière la caméra dans le premier siècle du cinéma. Et pourtant, les films d'Ida Lupino ont été peu ou mal vus. Il faut dire qu'elle a longtemps été ignorée des histoires du cinéma, surtout aux États-Unis. Ou alors c'était pour dire que la star aux grands yeux sombres et à la voix grave qui excellait dans les rôles vénéneux d'amants, de rebelle et parfois de folle, la femme dangereuse de Raoul Walsh ou à la cigarette chez Jean Negulesco, la femme de Bogart dans La Grande Évasion et de Jack Palance dans Le Grand Couteau, la femme aveugle de La Maison dans l'Ombre de Nicolas Ray qui se qualifiait elle-même avec ironie de Bette Davis du pauvre, avait par ailleurs signé comme réalisatrice mais aussi scénariste et productrice des petits films intéressants. Or ces films, et en particulier les 6 qu'elle a conçus en à peine 4 ans, de 1949 à 1953, sont magnifiques et font d'elle une immense cinéaste à l'égal de ses contemporains Samuel Fuller et Robert Aldrich qui ont su, comme elle, allier économie de série B et innovations formelles et narratives pour affirmer, face au système des studios et à rebours de ses codes, la place centrale du réalisateur au cœur d'un cinéma indépendant et audacieux. Ces films marquent une date dans l'histoire du cinéma américain, a dit d'elle Martin Scorsese, admirateur de la première erreur. Pierre Rissian, le critique qui le premier l'a fait découvrir en France, louait sa franchise et sa limpidité de style pratiquement misogouchienne, cette spontanéité dans le geste de mise en scène qui signale les grands cinéastes. Et pour Clint Eastwood, amoureux lui aussi du cinéma lupinien, c'était une sacrée pointure. Eh bien, ces films, on peut enfin les voir à la faveur de la réédition en copie neuve et en salle de 5 d'entre eux. Et pour nous en parler aujourd'hui dans Plan Large, nous recevons la grande spécialiste de son œuvre, Yola Lekaïnec, qui enseigne le cinéma à Rennes. Dans le journal du cinéma, nous entendrons le dessinateur Aurel nous raconter sa rencontre graphique avec Joseph Bartoli, dont il a raconté la vie mouvementée dans son premier long métrage, Joseph précisément. Et puis en fin d'émission, Sophie-Catherine Gallet nous entraînera dans les recoins sombres et inquiétants du cinéma sadien. Mais pour l'heure, Boogie Woogie.
Do it. You won't regret it. Get it. What are you looking at? Hit it again. Fun, isn't it? Nothing matters, just you do it.
C'est un extrait du tout premier film d'Ida Lupino comme réalisatrice, même s'il n'est pas signé de son nom. On va expliquer tout à l'heure pourquoi. Il aurait dû s'appeler Unwed Mother, c'est-à-dire fille-mère, si le titre n'avait pas été refusé par le bureau de censure, qui s'était même opposé à l'origine à sa réalisation. Il faut dire que le sujet du film est tout à fait scandaleux pour l'époque. On est en 1949, puisque la jeune serveuse qu'on a vue dans cette scène tomber amoureuse d'un pianiste de bar virtuose va bientôt se retrouver à la fois enceinte et abandonnée abandonné par son amant, c'est Avant de t'aimer, Not Wanted. Et pour entrer dans ce film, Yola Lekainen, on pourrait peut-être commencer par son premier plan, pendant le générique de début, un plan large, ça tombe bien pour cette émission, qui voit une femme remonter l'air hagard, une rue en pente, en se dirigeant vers la caméra, donc vers nous. Elle semble complètement écrasée par la ville, par son immensité, et ce plan qui signe la naissance d'une cinéaste, c'est presque un plan signature pour Ida Lupino, il me semble. On en retrouvera de nombreux semblables dans ses films, comme dans Bigamy, dont on va parler tout à l'heure, avec cette fois un personnage masculin, Yola Lekainen.
Oui, alors effectivement, ce plan, je suis tout à fait d'accord, est une signature d'Ida Lupino parce que Ida Lupino va laisser ce que j'appelle advenir le gros plan. Signifier une volonté de l'acteur, de l'actrice, de créer son personnage à l'écran. Et la saisie qui précède en plan large permet au contraire de signer plutôt un rapport documentaire réaliste à l'environnement. Ida Lupino recherche à inscrire son personnage dans une situation. La situation, elle a défini la plus sobre possible, comme on le voit effectivement dans ce premier plan de Avant de t'aimer, hein, puisque les rues sont désertes. Elle monte seule, elle gravit seule cette route qui est aussi une image de sa vie, de son destin qu'elle est en train d'affronter, puisque c'est juste avant le rapt de l'enfant qui va l'amener dans un poste de police où reconnue, identifiée comme coupable, puisqu'elle a essayé d'enlever l'enfant d'une autre, eh bien, elle va être emprisonnée. Et dans cette prison, ensuite, elle se retrouve dans une cellule très étrange, où on a l'impression que les femmes sont un peu... ont l'esprit un petit peu hagard, errant, dérangé. Eh bien, elle va... commencer un flashback.
On va se demander comment en suis-je arrivé là.
Comment suis-je arrivé là? Et ensuite, nous arrivons dans une petite ville de province. On était avant à Capital City, dans une petite ville de province, d'où la scène que vous avez citée est extraite, puisque c'est peu de temps après le début, quand on découvre Sally qui... est serveuse et qui se rend le soir pour écouter le pianiste, puisqu'elle travaille dans le café juste à côté.
Alors comment suis-je arrivée là, se demande Sally, jouée par Sally Forrest dans le film. Comment est-ce que Ida Lupino en est arrivée là? Comment une star dont j'ai cité quelques films tout à l'heure, qui venait d'une grande famille de comédiens anglais, d'origine italienne, hein, je crois que c'est une lignée de comédiens qui remonte à la Renaissance, et c'est tout à fait incroyable, qui a été attirée par Hollywood, je crois que c'est la Paramount qui voulait faire d'elle une nouvelle Jean Harlow, qui va passer ensuite à la Warner, avec qui elle va avoir quelques démêlés parce qu'elle ne veut pas jouer tout et n'importe quoi. Comment elle va se retrouver réalisatrice?
Eh bien, l'histoire, bon, vous l'avez formulée, hein, elle a un début de carrière ou de jeune première, mais déjà, hein, ses rôles étaient spécifiques. Puisque c'était Ingenue with a Dark Intensity. Et donc elle avait déjà un regard qui biaisait au sein de ses rôles, on l'avait repéré de cette façon, ce qui fait que le rôle pour lequel elle est venue à Hollywood, elle ne l'a pas eu, c'était pour Alice in Wonderland. On l'a très vite destinée à d'autres types féminins qui étaient un peu anguleux, un peu ambivalents. Donc elle a développé... cette image d'elle à l'écran, mais qui l'enfermait trop. En 40, elle entre à la Warner, jusqu'en 47, où elle a vécu, comme vous l'avez très bien dit, bien des moments difficiles, puisqu'elle refusait certains rôles, d'être servante ici, là, et elle a été suspendue. Sa plus longue période de suspension, c'était 18 mois, et elle avait une clause dans son contrat qui lui permettait de travailler à la radio. Donc,
vive la radio.
Voilà. Et sa voix magnifique, était particulièrement propice à la radio. En 48, donc après la Warner, après elle, elle est Elle arrête son contrat, elle devient actrice indépendante et elle écrit avec Colleen Young en 48 un scénario, le scénario de Not Wanted. Alors c'est pas elle qui a eu l'idée originale, ni Colleen Young, c'est un autre scénariste, on pourra en reparler. Et ils se disent, alors qu'ils écrivent tous deux, eh bien pourquoi on ne le produirait pas nous-mêmes ? Et là, et la décision de créer la société de production Emerald Production. Emerald Production, c'est du nom de la mère d'Ida Lupino. Et puis un an après, en 49, cela devient les Filmmakers. Colleen Young sera aussi son mari jusqu'en 51-52. On pourra en reparler pour un film suivant.
Quand on parlera de Bigamy, oui. Et pourquoi est-ce que c'est elle qui passe à la réalisation ? Ça, vous n'avez pas, vous n'avez pas complètement répondu à ma question.
C'est vrai. Oui, j'étais. Alors, quand elle crée les Filmmakers avec Colleen Young, eh bien, elle voulait surtout être scénariste. Elle, et d'ailleurs, je vous ai dit que son entrée, c'était par le scénario, et puis productrice aussi. Pas forcément, elle n'avait pas prévu de passer à la réalisation. Et pour leur premier film, ils avaient la chance, ils étaient très contents d'avoir Elmer Clifton, un vétéran.
Vieux routier du cinéma, voilà, depuis l'époque du muet. Oui.
Voilà, qui avait accepté de prendre cette première réalisation en charge. Et il a eu des problèmes cardiaques sur le tournage. Donc, très vite, sur le tournage. Et Ida Lupino, qui avait repris le scénario original, il n'avait gardé que 4 pages du scénario original, mais donc c'est sa version à elle qui a été retenue pour le tournage. Donc, il était logique que soit elle qui reprenne le tournage. Attention, sur le tournage, Ida Lupino ne revendique pas ce film parce que...
D'ailleurs, il n'est pas signé par elle. Hein, il est signé, elle m'a cliqué.
Tout à fait. Elle est scénariste. Elle a agi comme réalisatrice, mais Elmer Clifton était juste à côté d'elle. Et puis, il y avait aussi le chef opérateur, le monteur qui venait, le monteur notamment, qui venait régulièrement parce qu'elle avait des problèmes récurrents et elle en parle dans d'autres films sur la question de la direction. Et d'ailleurs, elle avait demandé quelques conseils aussi à Walsh à ce sujet dans la salle de montage. Parce que c'est un vrai problème. Où est-ce qu'on doit, pour les questions de raccord, où est-ce que le personnage doit regarder Element left with your left hand, go right on into right. Then grand with a right and a left all around the ring. Hand over hand with a dear little thing. Keep on going around the square, oh, all around with a lady fair. Now keep on going till you meet your mate. We'll ride around and promenade. Take a little ride all around the world, all around with a sweet little girl. Take a little ride all around the ring, oh, all around with a sweet little thing. Ladies and gentlemen, back to the bar. Now gents and gentlemen, form a star with a right hand. Pull across and back with a left and don't get lost. Pass your partner, pick up the next with a right hand. The whole time round, round and round and round you go. Ladies and gentlemen, the left hand star. Back to the right, but not too far. And keep on going right where you
are. I can't do it. Len, get me out of here.
You can do it, Softy. Come on up. Round you go. Get all the traffic. Come on.
Round and promenade around town. Promenade the center of the hall. Reach ahead and pants off all legs. Go right, the gents go left. Put them on ahead and feel their hip. The ladies go deep and the gents go hard. Through the woods, let's see grandma. Keep on going on down the line. Ah, uh-huh, boys, you're new and fine. Turn around and face your part. We're gonna have a dance in our own backyard. Face your gallant butts and set. Hurry up, boys, you're not moving on everybody.
Pour visualiser cette scène, il faut s'imaginer que le quadrille fougueux mené avec entrain par l'orchestre country qu'on entend est exécuté dans une salle de danse par des handicapés en fauteuil roulant dans une véritable institution de rééducation pour victimes de la poliomyélite, le Kabat-Kaiser Institute de Santa Monica, dont les patients sont d'ailleurs figurants dans le film. C'est Never Fear en 1949, toujours Faire Face en français. C'est l'histoire d'une danseuse dont les rêves et le couple se brisent quand elle est atteinte par la maladie, un film qui est largement autobiographique pour Ida Lupino. Elle a elle-même été victime d'une attaque de polio à 15 ans. Elle en a gardé une surdité à une oreille. Mais ce titre, Faire Face, ça pourrait être le grand programme d'Ida Lupino. Ces films sont tous peu ou prou des histoires de résilience, comme on dit aujourd'hui, des histoires de femmes, mais il y a aussi des hommes, on va en parler tout à l'heure, qui doivent apprendre à surmonter un drame qui leur est tombé dessus pendant leur vie quotidienne. Les histoires préférées d'Ida Lupino racontent toute la lente cicatrisation d'une blessure, avait écrit l'historien Jacques Lourcel dans son dictionnaire du cinéma, Yola Le Kainec.
Oui, effectivement, elle appelle ses personnages, elle dit qu'ils sont bewildered, c'est-à-dire désemparés. Moi, je le traduis de cette façon. Alors, comment alors,
parce que nous sommes tous, hein, elle va dire.
Tout voilà. À fait, parce que nous sommes tous, tout à fait. Elle s'adresse, elle a une adresse à l'homme et à la femme. Hein. C'est, même si son cinéma a été... retenue comme un cinéma féminin, elle-même dit j'appartiens à la catégorie, mes films appartiennent à la catégorie des films de femmes, mais elle ne s'identifie pas forcément à ce genre. Elle va d'autant plus, elle va surtout se revendiquer d'ailleurs du genre du suspense. On pourra en reparler, enfin sur l'écriture du suspense. Des personnages désemparés et la ligne narrative des films d'Ida Lupino est totalement pour moi décrite par ce terme. Mais cela ne veut pas dire qu'ils vont être conduits à la destruction d'eux-mêmes, à l'autodestruction d'eux-mêmes, même s'ils vont au bout de leurs forces. Ils sont inscrits dans une logique de survie permanente et le destin semble les accabler et ne jamais pouvoir permettre qu'ils se redressent. Qu'ils se remettent à marcher. Je dis pourquoi marcher, parce que vous avez raison, Neva Fier est un film, c'est le plus autobiographique, puisqu'il raconte quelque chose d'Ida Lupino, quelque chose de profond. Et d'ailleurs, elle est allée retourner sur les lieux de sa propre, de son propre traitement, dans l'institut où elle a pu... Se régénérer. Je signale par là que cet institut, c'est très important la présence des institutions. Chez Ida Lupino, elle était rooseveltienne et défendait les institutions, le fait que voilà, les êtres désemparés, la société pouvait les prendre en charge.
Oui, il y a cette institution pour Filmer, précisément, dans Avant de t'aimer.
Et donc, et ils ne sont donc jamais totalement seuls. On a tendance à dire qu'ils sont passifs, seuls et totalement désespérés. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Ils sont pris en charge et accompagnés. Et d'ailleurs, l'histoire aussi les accompagne jusqu'à une forme de résurrection. La fin de Neva Fier est extraordinaire, puisqu'elle sort de l'institut. Elle a beaucoup de difficultés à marcher, elle a peur du monde, elle a peur, le plan large, un espace similaire que l'ouverture d'Out Wanted. Elle a peur d'être bousculée par les passants, et puis à un moment, son regard se lève, donc elle se redresse et elle voit celui qui l'avait pourtant quitté pour une autre. Peu de temps avant. Et donc, leur histoire d'amour reprend. Moi, j'aime beaucoup une expression de Jacques Siclier sur Ida Lupino. Il dit qu'il y a chez elle une morale de l'amour. Et je trouve ça assez magnifique, vous voyez, pour répondre à la cicatrice. Hein. C'est bien évidemment, la cicatrice est là, mais la morale de l'amour est là, qui va justement permettre au personnage, aux spectateurs, à la spectatrice, avec eux, de toujours retrouver des forces et d'accompagner leur existence, une logique de survie positive.
Hey, beautiful!
Somebody help me!
Vous écoutez France Culture, plan large sur Ida Lupino avec Yola Lekainec, et c'est une leçon de mise en scène que ce passage absolument terrifiant d'outrage. Troisième film d'Ida Lupino comme réalisatrice, on est en 1950, et un des premiers films, il y avait eu avant Safe in Hell de William Wellman et surtout Johnny Belinda de Jean Negulesco, un des premiers films en tout cas à traiter du viol du point de vue de la victime et surtout de ses séquelles psychologiques qui, dans un film hollywoodien de l'époque, on aurait traqué le violeur, une famille se serait vengée. Ici, on va suivre vraiment l'impact de cet acte sur la jeune femme. Et cette séquence est très intéressante parce que Ida Lupino, il me semble, aime souvent se passer de dialogue, faire du cinéma pur. Je pense à la fin, notamment de Avant de t'aimer, où elle avait remplacé 8 pages de dialogue par une scène entièrement d'action. Et dans sa façon de filmer cette scène de viol, qui n'est jamais montrée, le mot de viol n'est jamais prononcé dans le film, on est encore à l'époque du code Hays, c'était comme si toute la façon dont la ville était mise en scène faisait que le viol avait lieu. C'est comme si la ville tout entière, la société, contenait le viol en son sein. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du viol. Yola Lekainec.
Oui. Alors, par rapport à ce qu'on formulait tout à l'heure, c'est la séquence que vous avez cité est justement encore représentatif parce que on est sur une séquence qui travaille le plan large et le personnage errant, perdu, isolé dans un environnement absolument hostile le bruit qui va envahir totalement le cadre, le bruit très agressif du quand il la siffle violemment en réponse à son sifflement à elle, qui est là pour justement rendre vivant ce lieu et se rassurer elle-même. Et ce plan large va se finir sur un gros plan sonore qui est le klaxon du camion. Il va y avoir une résonance avec The Hitchhiker. Vous pourrez l'entendre aussi, ce klaxon, oui. Tout à l'heure. Et cela finit sur... le gros plan d'un voisin qui ferme sa fenêtre, dérangé par le bruit. Donc oui, il y a quelque chose de très cruel et de très violent dans cette scène, puisque on ne veut pas entendre, on ne veut pas écouter la fureur du dehors, et on préfère se renfermer chez soi. C'est la description d'une Amérique assez conventionnelle, assez qu'on a du mal à appréhender. Et Ida Lupino, vraiment, justement, veut l'appréhender. C'est d'ailleurs l'un des objectifs des filmmakers, hein, d'aller vers cette Amérique-là, d'en faire son portrait au travers de personnages qui l'habitent. Anne, qui est incarnée par Mala Powers, c'est un rôle qui va découvrir Mala Powers.
C'était aussi 17 ans, oui.
Voilà, c'était aussi un objectif des filmmakers, de découvrir de jeunes talents. Accompagnée après ce viol qui est en hors champ, on ne le voit pas, on a juste l'autre gros plan auquel aboutit cette séquence, c'est celui d'Anne qui est au sol, impuissante, avec l'approche du corps de l'homme marqué par une cicatrice et barré par une balustrade. Et on va avoir l'effroi d'Anne et la paralysie d'Anne. Donc on retrouve aussi cette idée, à un moment, du corps qui fait défaut, corps féminin qui fait défaut, le corps de... Et ce ne sera pas le corps féminin d'ailleurs, parce que, par exemple, dans Le Voyage de la peur aussi, hein, le corps à un moment va faire défaut, puisque le personnage va boiter comme Anne, plus tard dans Outrage, puisqu'elle va fuir sa famille, fuir... alors c'est une famille qui... elle est accompagnée par la police qui veut retrouver le coupable, mais il y a ce moment très, très compliqué par rapport à ce que vous dites, où le père lui dit quand même, fais attention, et puis le père pense à l'image de leur famille, et on voit que c'est la réputation de la famille qui est en jeu, qu'il y a toujours une suspicion. Il lui est arrivé ça.
C'est le personnage d'Anne qui va fuir.
Tout à fait.
Il y a le renversement de la faute, de la culpabilité, qui est magnifiquement décrit ici.
Parce que ceux qui sont face à elle ne peuvent pas comprendre. Et elle va quitter son fiancé. Et alors cette fuite, ce n'est pas contre eux, hein, mais c'est pour elle. Et c'est ça qui est très intéressant dans la proposition d'Ida Lupino, c'est que c'est un personnage. Alors, on parle de passivité pour les personnages d'Ida Lupino. Là, moi, je suis pas d'accord parce que, au contraire, elle agit pour elle. Elle part et elle part pour sa reconstruction. Même si, sur le chemin, eh bien, oui, elle va vivre des épreuves redoutables, elle va s'enfoncer progressivement jusqu'à le moment où elle frappe un homme. Hein. Elle manque de tuer un homme puisqu'elle ne supporte plus d'être touchée, ne supporte plus le désir masculin. Donc ça, c'est aussi, ça a été rarement montré au cinéma, cette aversion d'un seul coup qui sépare l'homme et la femme. Il fallait le comprendre, il fallait le signifier. Et là où Ida Lupino ne crée pas une rupture entre les sexes, c'est que c'est un autre homme qui va justement aider Anne à se reconstruire, qui va prendre sur lui ce que n'avait pas fait le père, la responsabilité de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a fait par rapport à l'homme qu'elle a voulu tuer, hein, et qui va l'aider à se retrouver, à retrouver son identité et à comprendre ce qui l'a blessé profondément. Cet homme, elle l'identifie à un moment comme un éventuel amour, mais en vertu de la morale de l'amour que j'ai énoncé tout à l'heure, eh bien, la morale excède, bien évidemment, cette morale de l'amour excède le rapport entre les sexes et le rapport érotique. C'est un rapport qui réunit profondément deux individus, et cet homme qui est pasteur le lui explique. Il lui dit, nous allons chacun suivre notre voie, voilà, nous savons que nous existons, et c'est déjà magnifique, mais retournez à votre vie. Et c'est pas qu'il la renvoie comme ça, et c'est pas qu'elle va retourner à sa vie d'avant, c'est que maintenant, elle peut l'appréhender en profondeur. Et moi, je trouve ça vraiment important de formuler cette profondeur, parce que c'est la complexité que recherche Lupino au sein de ses personnages. Elle dit « j'aime les personnages forts ». Et d'ailleurs, elle-même a incarné des personnages forts. Et ils sont forts parce qu'ils sont complexes. Parce que ce sont des personnages qui composent toutes les facettes de l'humanité, hommes et femmes compris, et qui, une fois qu'ils ont compris ce qui définit la condition humaine, peuvent appréhender le monde entier et lui apporter leur amour.
Not bad. Collins! Pick up the can! Take it out of that point there. If you don't, I'll let Bowen have it. Out of the point, that's right. Further! Now hold it up! You won't get hurt, your buddy's good with guns.
Crazy, I won't do it.
It's just a game. Go ahead. Collins, hold it closer to you. What's the matter? You scared? Hold it closer. You want me to try it again? I might miss this time.
Shoot.
Petite scène de pur sadisme. On anticipe un peu sur votre chronique, Sophie-Catherine Gallet, où un ravisseur oblige deux amis à se tirer dessus comme ça, juste pour rigoler. C'est Le Voyage de la Peur, Le Voyage de la Peur, The Hitchhiker, en 1953, inspiré par une histoire vraie. C'est toujours ce qu'affichent d'ailleurs les productions des filmmakers en ouverture de films. C'est inspiré d'une histoire vraie, et c'était celle d'un serial killer qui massacrait les gens qui le prenaient en stop. Il y a chez Ida Lupino un souci de véracité, souvent de documentation qui va même l'amener à rencontrer le meurtrier en prison, dans le couloir de la mort juste avant son exécution. Alors c'est censé être le premier film noir à être signé par une femme, je crois qu'il y en avait eu un avant au Danemark, mais en tout cas c'est un film à part dans l'œuvre d'Ida Lupino, pour ceux qui voudraient la réduire à une réalisatrice de films de femmes, puisque des femmes, il y en a une seule, je crois, ici, et c'est une petite fille dans un magasin au Mexique. Et c'est surtout un film qui interroge la virilité, ses failles, ses faiblesses, Sophie-Catherine Gallet.
Oui, bah, effectivement, enfin, je trouve que c'est un film assez emblématique pour ce qui est beau chez Lupino, en fait, c'est que non seulement elle raconte des petites histoires, effectivement, enfin, les histoires de petites personnes qu'on ne voit quasiment jamais sur les écrans, mais elle le raconte avec les codes, là, du cinéma noir. Et comme ça, il y a, enfin, donc, du coup, avec des codes que nous, on identifie très bien formellement. Et donc, il y a cette espèce de distorsion qui happe comme ça le spectateur directement dans son cinéma, pour moi. Et si elle parvient aussi bien justement à raconter ses petites histoires au sein d'un code formel extraordinairement bien identifié, c'est parce que pour moi elle a une grande tendresse pour ses personnages, comme vous le disiez juste précédemment. Et c'est vraiment la grande force de son cinéma pour moi. Donc il y a une tendresse pour ses personnages féminins, évidemment, qu'elle raconte de manière complètement novatrice, non seulement pour l'époque, mais encore aujourd'hui, je pense. Et aussi pour ses personnages masculins. Et c'est là vraiment que j'ai été extraordinairement surprise, parce que Lupino, je la connaissais assez mal, et je la connaissais surtout par ce prisme, effectivement, du féminin. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, elle avait un regard extraordinairement intéressant, de manière générale, en fait, sur l'humain, effectivement. Et c'est vraiment ça qui est fascinant, c'est que là, du coup, on a ce tandem masculin de Gilbert et Roy qui ont une amitié, comme une amitié masculine, comme j'en ai, honnêtement, je pense rarement, enfin presque jamais vu en fait au cinéma, où il y a aucune ambiguïté déjà homosexuelle, il y a aucune compétition de virilité, il y a pas une femme entre les deux, ils ont chacun leur femme, tout va bien, et en fait c'est une amitié qui est dénuée d'enjeu. Et ça, c'est, je trouve que c'est vraiment c'est vraiment une prouesse d'écriture en fait, déjà juste ça. Et en fait cette amitié est développée tout au long du film par l'intrusion de ce danger, donc de l'autostoppeur qui entre dans leur voiture et en leur pose des questions qui révèlent peu à peu les fondements de cette amitié très sincère et très belle, et révèlent ainsi aux spectateurs aussi quelles sont les bases de cette amitié, et c'est vraiment extraordinairement beau. Et aussi à la fin, du coup, il y a cet autostoppeur qui leur fait remarquer justement, mais vous vous rendez compte que si votre amitié n'était pas aussi importante, l'un de vous deux aurait pu être épargné. Et ça, je trouve ça vraiment assez fou, en fait. Et c'est aussi quelque chose qui est dans l'inconscient, je pense, dans l'inconscient collectif, qui est associé à une représentation très féminine, en fait, un duo comme ça amical. Et là, voir ça chez des hommes, j'ai vraiment été très très émue par cette description masculine, et aussi par finalement cet autostoppeur qui je trouve finalement et ressemble beaucoup à tous les personnages lupiniens, dans le sens où pendant tout le film, il est représenté comme le mal absolu, avec ses traits grossiers qui sont comme ça illuminés par le noir et blanc, où on voit sa sueur, où tout est très charnel, et finalement on pense que tout le film, on va rester dans cette description comme ça très classique du mal absolu. Et finalement, à la fin, bon, je divulgâche un peu.
Il faut rien dire. Mais enfin, il montre une fragilité,
voilà,
en tout cas,
qui
est celle de tous les personnages chez Ida Lupino. On va pas avoir le temps d'entendre un extrait du film suivant, qui sera le dernier de cette période, réalisé par Ida Lupino, qui est Bigamy, mais qui a des liens, il me semble, Yola Lukainek, avec Le Voyage de la Peur, parce qu'il y a une sorte de triangle qui se forme à nouveau. Alors, c'est pas un tueur avec ses deux victimes, mais c'est un homme qui a deux femmes. Le titre nous annonce tout de suite la couleur, c'est The Bigamist en anglais, Le Bigame, un film qui est écrit par Collier Young. Alors là où tout se complique, c'est que Ida Lupino joue dedans, c'est la première fois qu'elle joue dans un de ses films. Il y a John Fontaine, autre star qui joue dedans, mais il faut savoir que John Fontaine est l'épouse de Collier Young, qui vient de divorcer d'Ida Lupino. Donc on est effectivement dans une histoire de bigamie, ou en tout cas un peu décalée dans le temps, ce qui est très troublant. Et il me semble, dans ce film, et comme dans toute l'histoire des personnages d'Ida Lupino, et même pour le tueur de Voyage vers la peur, c'est qu'il n'y a jamais de jugement chez Ida Lupino. Elle montre des personnages empêtrés dans des situations impossibles, mais comme le dira quelqu'un qui enquête sur cet homme qui a deux femmes, il va lui dire « Vous m'inspirez autant le mépris que la pitié, je ne vous serrerai pas la main, mais je vous souhaite bonne chance. » C'est un peu la distance, il me semble, qu'Ida Lupino a avec ses personnages. Yola Lukainek.
C'est vrai, elle leur fait vivre une forme d'enfer, et elle les fait advenir par une nouvelle forme d'héroïsme, un anti-héroïsme, mais qui est un, un anti-héroïsme conventionnel, selon les conventions de l'héroïsme. Donc en fait, elle définit pour moi un nouvel héroïsme qui est l'héroïsme, ben oui, de la solidarité. Alors, qu'est-ce qu'un héros aujourd'hui? Alors, le personnage Harry Graham, ce personnage qui crée lui-même son malheur ou son destin étrange, puisque il est avec une femme, Eve, qui est tout à fait magnifique, qui est aimante, avec laquelle il construit un projet d'adoption. Et puis il rencontre au fil de... il est représentant, donc c'est aussi ça, hein, c'est le portrait de ce métier de représentant qui n'est jamais chez lui, toujours déraciné. Et il rencontre une autre femme, incarnée par Ida Lupino, et va naître entre eux une histoire d'amour, et elle va attendre un enfant de lui, et il va décider de l'épouser.
Par gentillesse, presque. On pourrait dire que c'est par veulerie, par lâcheté, mais c'est un homme qui est fondamentalement gentil.
Voilà, c'est un anti-héros lupinien, donc un héros. Parce que si on redéfinit les codes de l'héroïsme, il devient héroïque. On peut parler d'un héroïsme du quotidien chez Ida Lupino. C'est pour ça que c'est monsieur et madame tout le monde. Chacun peut apprendre et peut braver les épreuves de l'existence en regardant les films d'Ida Lupino. Alors là, je ne sais pas s'il y aura une leçon dans Bigamy, comment appréhender son choix d'une double vie.
Il y a une leçon quand même qui est donnée par le juge à la fin, qui lui dit qu'il y aura une sanction judiciaire, mais la punition, d'abord, vous voulez donner vous-même, et puis la question, quand vous sortirez de prison, c'est pas comment vous allez faire, c'est quelle femme voudra bien de vous.
Oui, alors la fin n'est pas tant suspendue, je trouve, que cela, puisque quand même Eve le regarde, et on perçoit peut-être que autant le personnage de Phyllis, qui justement représente aussi Ida Lupino, sera plus peut-être tranchant sur l'homme qui l'a trompé d'une certaine façon. Mais moi, j'aimerais aussi revenir sur l'enquêteur, parce que l'enquêteur est vraiment passionnant. C'est face à cette enquête, face à cet homme, Harry Graham, il fait montre de zèle, et c'est finalement ce zèle, cet acharnement, il me fait penser un peu à un personnage de Tex Avery, toujours là, quoi, c'est droupi, cet acharnement fait qu'on le soupçonne, mais pourquoi il s'acharne alors qu'il semble que cet homme arrive à construire le bonheur de deux façons. Et c'est ça qui va suspendre aussi le jugement. C'est que elle va introduire, Ida Lupino, des personnages secondaires, leur donner toute leur force. Il a une vraie présence à l'écran quand elle le filme, quand il est assis sur le bureau de Graham, où il l'attend. Et il est plein cadre, il est là, il occupe l'espace, il est plus ou moins en train de fouiller dans son bureau. Et il a vraiment une existence. Et ce n'est pas du tout un personnage qui est juste fonctionnel. Il construit une partie de l'histoire. Et pour moi, justement, il va rééquilibrer les enjeux de la culpabilité, du jugement au sein de la fiction. Et je trouve qu'aborder Bigamy par ce personnage peut permettre de mieux comprendre la façon dont Ida Lupino va biaiser les histoires hollywoodiennes conventionnelles pour les renverser, les retourner et amener une nouvelle hiérarchie de valeurs.
It's quarter to three. There's no one in the place except you and me. So set 'em up, Joe. I've got a little story you ought to know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and one more for the road. I got the routine, so drop another nickel in the machine. I'm feeling so bad, wish you'd make the music dreamy and sad. Could tell you a lot, but you gotta be true to your code. Make it one for my baby and one more for the road.
Merci Yola Lekainec. On se quitte sur la voix d'Ida Lupino qui chantait dans La femme aux cigarettes de Jean Negulesco en 1948. Car oui, Lupino était en plus excellente musicienne, elle était même compositrice, et il faudra refaire sans doute un deuxième volet cette émission sur l'œuvre télévisuelle d'Ida Lupino, puisqu'après les films que nous avons évoqués, elle va devenir une des très grandes réalisatrices de la télévision américaine, signant nombre d'épisodes de séries comme Alfred Hitchcock présente Les Incorruptibles, Virginien, Le Fugitif et même Ma sorcière bien aimée. La rétrospective Ida Lupino avec Avant de t'aimer, Faire face, Le voyage de la peur et Bigamy est en salle et en copie restaurée depuis mercredi. Outrage est sorti au début du mois, mais il continue son chemin sur les écrans un peu partout en France. On peut encore voir les films d'Ida Lupino ce week-end à La Rochelle, où le festival du même nom, empêché cet été comme beaucoup d'autres, propose depuis hier un condensé en 22 films de ce qu'il aurait dû montrer cette année. Rétrospective Lupino encore à Nantes au Cinématographe et à partir du 14 octobre à la Cinémathèque de Toulouse. Toutes les infos sur le site de France Culture à la page Plan Large. Aucun prétexte donc pour ne pas vous plonger dans cette œuvre passionnante. Et puis pour en savoir encore plus sur Ida Lupino, on vous recommande le documentaire Through the Lens de Gideon Phillips qui est aisément trouvable sur YouTube. Vous écoutez France Culture et dans Plan Large, il est temps d'ouvrir le journal du cinéma.
After this person. And clear.
Now. There's a camera there, there, and there. Dash. Nope, in any order.
This is not a cheap tie. Most people want to be cajillionaires. That's the dream. That's how they get you hooked. Hooked on sugar, hooked on caffeine. Ha ha ha, cry, cry, cry. Me, I prefer to just skim.
So do I.
Dire que je ne peux pas voir mon fils grandir à cause d'un papier.
Vous avez commencé vos démarches en Israël, vous devez les continuer en Israël.
Écoute, ça va être comme si j'étais jamais parti. Ok? Mm. Je te promets.
Namphyeon하고는 어때? 잘 지내? 우리는 매일 붙어 있죠, 뭐. 떨어져본 적이 없어요.
L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber.
On est dans un jeu de juste mesure.
Est-ce que c'est normal ça?
Arrêtez!
Ce qu'on peut appeler une police républicaine, c'est justement une police qui est au service du peuple et non pas au service de l'État.
Beautiful soul she had that she could only do by expressing herself singing.
And now a little tune written especially for me, Strange Fruit.
Une semaine très riche, n'en déplaise aux grincheux, en nouveaux films à voir sur grand écran qui, pour beaucoup, allie questions théoriques et émotions cinématographiques. Il y a le retour de Miranda July, artiste pluridisciplinaire et icône arty du cinéma indépendant américain, 15 ans après Moi, Toi et Tous les Autres. Une histoire de petits escrocs un peu foireux qui vivent en marge du Los Angeles consumériste et un film qui vire à la découverte du désir chez une adolescente qu'interprète tout en burlesque du corps, la toujours formidable Evan Rachel Wood, c'est cajillionnaire. Il y a aussi un couple qui vit son amour par écran interposé entre Paris et Tel Aviv, chacun prisonnier de son champ ou contre-champ. C'est à cœur battant de l'israélienne Keren Ben Raphaël, un film qui résonne très étrangement avec ce que nous avons tous vécu pendant le confinement et qui confirme que Judith Chemla est la plus injustement sous-employée des très grandes actrices françaises. Une femme encore momentanément esselée Riley, qui rend visite à trois de ses amis pour vivre un moment dans le paradis qui pourrait être un monde sans hommes. C'est la femme qui s'est enfuie, très émouvante, nouvelle variation sur un thème du toujours très prolifique coréen Hong Sang-soo, comme quoi les hommes peuvent eux aussi faire de très beaux films de femmes. Des images des très violentes répressions policières, des mouvements sociaux que la France a connus ces dernières années, images montées en récits cinématographiques et commentées à l'écran en dialogue par des intervenants de tous bords. C'est Un pays qui se tient sage de David Dufresne, un film assez éprouvant par ce qu'il montre et tout à fait passionnant par sa réflexion sur la légitimité ou l'illégitimité de l'usage de la violence par l'État. Et c'est un film soutenu par France Culture. Et puis enfin, un documentaire sur Billie Holiday de James Erskine, ça s'appelle Billie, un film qui repose sur des centaines d'heures d'enregistrements inédits qui avaient été faits par une journaliste dans les années 70 et qui a disparu elle-même mystérieusement, des témoignages sur la grande chanteuse de jazz avec des images d'archives parfois un peu curieusement colorisées mais qui laissent une belle place à sa musique comme on vient de l'entendre. Et puis si ça ne suffisait pas à notre bonheur, est sorti également ce mercredi Joseph, le premier film du dessinateur de presse Aurel, qu'on connaît entre autres pour son travail au Canard Enchaîné et au Monde. Joseph, c'est la biographie en dessin animé de Joseph Bartoli, un dessinateur lui aussi, militant républicain espagnol, réfugié en France en 1939 après la chute de Barcelone, qui a été, comme des milliers de ses compatriotes, parqué dans des camps de concentration. On les considérait comme des indésirables et il en a laissé un témoignage graphique tout à fait saisissant. Le film d'Aurel est à la fois l'évocation des sombres heures de notre histoire, quand l'appareil d'État français s'est déshonoré en parquant dans des conditions indignes des réfugiés politiques avant de les livrer aux Allemands quand il versa dans la collaboration, mais c'est aussi l'histoire de la rencontre entre deux univers graphiques, celui de Joseph Bartoli et celui d'Aurel, deux dessinateurs de presse, donc à l'heure où le procès des attentats de 2015 rappelle qu'encore aujourd'hui on peut mourir pour un dessin. Aurel.
C'est un dessin qu'on dirait semi-réaliste et qui a cette force d'être d'une justesse remarquable dans sa composition, d'une pureté du tracé sans hésitation, et puis oui, semi-réaliste dans le sens où ce n'est pas caricatural en soi, mais c'est un dessin éditorialisé où, pour parler peut-être de personnes plus connues, mais on va aller sur dans la veine d'Egon Schiele ou des gens comme ça qui ont, par leur tracé même, tout en restant réaliste, mettent énormément de leur ressenti dans la façon de dessiner un personnage et éditorialisent le propos en poussant la ligne un tout petit peu dans l'exagération ou dans un détail qui va raconter beaucoup de choses. Montré aujourd'hui, il est quand même aussi très influencé par l'école américaine et par quelque chose d'un peu moins caricatural, grosné. Mais c'est vrai que nos dessins, a priori, en tout cas les dessins de Joseph qu'il a sorti des camps, ce qu'on montre à l'écran dans le film, et les miens sont suffisamment différents, je pense, pour ne pas qu'il n'y ait pas d'équivoque entre les deux traits. Mais c'est évident que dès le début, c'était une problématique que j'avais en tête, parce qu'il fallait que ça soit totalement clair de ce qui était le dessin de Joseph et ce qui était le mien. Alors, de façon très très schématisée, le mien, c'est toute l'image du film, et le dessin de Joseph, c'est quand on voit le personnage dessiné ou quand on voit une de ses œuvres, et bien évidemment, ce sont les vraies œuvres de Joseph. Et c'est circonscrit à ces moments-là.
Au-delà de la biographie même de Bartoli, d'un moment de son histoire, parce que ça ne raconte qu'un moment de son histoire, dont on sent que vous condensez certains passages, puisqu'il a été lui-même dans plusieurs camps lors de son malheureux passage en France, on a l'impression que l'enjeu du film, c'est surtout pourquoi est-ce qu'on dessine, qu'est-ce que c'est que dessiner, et en quoi ça permet de survivre, en quoi ça permet de crier quelque chose, en quoi ça permet aussi de s'approprier qu'on voit.
Notre thèse avec Jean-Louis Milesi et celle que j'ai voulu porter en tant que dessinateur, c'est de dire que on voit beaucoup le dessin de Joseph Bartoli comme un témoignage de ce qui s'est passé dans les camps. Mais moi, je suis persuadé qu'il n'a pas dessiné pour en tirer un témoignage. Il a dessiné pour survivre, parce que c'était un besoin et une continuation de lui-même, et c'est une façon de se maintenir en vie. Je suis convaincu qu'il n'a pas fait ça que par militantisme ou pour un témoignage. Je suis convaincu qu'il fait ça par besoin.
Joseph Dorel et sa belle musique signée Sylvia Pérez-Cruz, c'est en salle depuis mercredi. Et puis le cinéma, enfin ça se trouve aussi sur les plateformes numériques. Nous sommes très heureux d'inaugurer à plan large aujourd'hui un partenariat avec Mubi, le très cinéphile service de vidéo à la demande par abonnement, où vous pouvez trouver aussi bien du cinéma de patrimoine que des perles de festivals et d'excellents films contemporains, tout à fait dans l'esprit de plan large. Donc il y a un film nouveau par jour et une éditorialisation du catalogue qui permet de ne pas passer des heures, comme souvent, à chercher quel film regarder. Nous nous sommes nous-mêmes plongés dans ce riche catalogue et nous avons choisi ce mois-ci le nouveau et très beau film de Jonathan Glazer, Strasbourg 1518, tourné pendant le confinement, et quatre films de Kenji Mizoguchi à voir avant ou après avoir écouté le plan large que nous avions consacré au plus grand cinéaste du monde. C'était le 18 janvier dernier. Et bien ces films, vous les trouverez sur Mubi.com à la page de France Culture, mubi.com/France Culture en un seul mot, et vous aurez un mois pour les découvrir gratuitement. C'est pour les auditeurs de plan large. Après toutes ces bonnes nouvelles, un peu de cruauté s'impose.
Deboli creature incatenate, destinate al nostro piacere. Spero non vi siate illusi di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Siete fuori dai confini di ogni legalità. Nessuno sulla terra sa che voi siete qui. Per tutto quanto riguarda il mondo, voi siete già morti. Ed ecco le leggi che regoleranno qui dentro la vostra vita. Puntualmente alle 6 tutta la compagnia dovrà riunirsi nella sala detta delle orge, dove le narratrici a turno si siederanno a raccontare ognuna una serie di racconti su un tema particolare. Gli amici possono interrompere in qualunque punto e tutte le volte che lo vorranno. Questa narrazione ha l'obiettivo di infiammare l'immaginazione e ogni lascivia sarà permessa. Dopo cena i signori passeranno alla celebrazione di quelle che vengono designate come orge. Il salone e le altre stanze saranno adeguatamente riscaldati. Tutti i presenti, vestiti secondo le circostanze, adagiati sul pavimento e seguendo l'esempio degli animali, cambieranno posizioni, si mescoleranno, si intrecceranno, si accoppieranno incestuosamente, adulterinamente, sodomiticamente. Tale sarà l'ordine quotidiano di procedura. Qualunque uomo trovato...
Via! Via i servi, cacciateli via!
C'est un des films sans doute les plus difficiles à regarder de l'histoire du cinéma. On ne se remet jamais vraiment d'une vision de Salò ou les 120 journées de Sodome de Pier Paolo Pasolini, dont on vient d'entendre avant l'horreur, les libertins édictés à leurs jeunes prisonniers et prisonnières, les règles des journées qui les attendent. Mon film est un mystère, écrivait Pasolini, un mystère médiéval, une représentation sacrée et donc très énigmatique. Il ne doit pas être compris. Je risque sans aucun doute d'être mal compris ou pas compris du tout, mais cela est intrinsèque au film lui-même, ce qui n'empêche pas d'essayer de penser ce film et le cinéma inspiré de Sade ou évoquant le Divin Marquis en général. C'est ce à quoi s'est attelé l'universitaire italien Alberto Brodesco dans son passionnant ouvrage Sade et le cinéma, regard, corps, violence, qui vient d'être édité en France par Rouge Profond dans une traduction de Vanessa Hélin et qui convoque, outre Pasolini, Luis Buñuel, Peter Brook, Jess Franco, Yann Schwenkmayer et quelques autres encore pour réfléchir, entre autres, aux relations entre image et violence. Sophie-Catherine Gallet.
Oui, Alberto Brodesco tente en effet de comprendre comment le cinéma se confronte à cette œuvre monstrueuse. Il faut bien dire que d'emblée, son postulat est effectivement très intrigant. Les cinéastes, d'une manière ou d'une autre, failliraient à retranscrire le langage sadien dans toute sa violence, le trahissant, alors même que Sade, paradoxalement, semble appeler de ses voeux cette plus-value de l'image mouvante quand Juliette, dans Les prospérités du vice, déplore que l'art, et en l'occurrence la gravure, soit incapable de reproduire le mouvement rapide de la luxure. Les œuvres de Sade se caractérisent en effet souvent par des tableaux qui s'enchaînent, au cours desquels les actions, les corps, les transgressions s'accumulent dans une frénésie à l'ambition quasiment encyclopédique jusqu'à la nausée. Ce constant mouvement semblerait effectivement appeler l'image animée, si la puissance de la vision sadienne ne résidait dans ce qui se cache derrière l'outrance. Parce qu'à force d'excès de réalisme, de violence, de blasphème, Sade tente à crever le réel et à le surpasser. Et c'est donc là que serait la pierre d'achoppement de nombreux cinéastes, trop attachés à la traduction précise en image des descriptions sadiennes. En parallèle à cette analyse du regard des cinéastes, Brodesco déploie également une analyse du regard des spectateurs face à ce type d'œuvre, où glisse le soupçon d'un contrat sadomasochiste avec le réalisateur. Supposition qui ne manque pas de sel, et qui permet surtout au lecteur, piqué au vif, de se plonger d'autant plus dans cet essai. Car l'analyse de ce regard happé, constamment joué, retourné, inclus, mis à mal, éprouvé, mais mis au centre de l'expérience que proposent ces films, nous impose de comprendre ce que nous y chercherions. À travers notre regard se pose une question fondamentale pour le cinéma, et fascinante en soi, d'où nous viendrait ce désir, réfréné ou assumé, de porter notre regard sur l'innommable que le cinéma, plus que tout autre art, serait à même de révéler. L'auteur nous confronte donc à des images souvent saisissantes et dures, minutieusement analysées, pour tenter de comprendre pourquoi est si difficile la conciliation de l'œuvre sadienne, où le regard est fondamental, avec l'art du regard qu'est le cinéma. Cette difficulté est particulièrement bien illustrée quand on compare la manière dont Pasolini et Buñuel se sont emparés de Sade. L'adaptation de Salo, dont on a entendu l'extrait, réalisée par Pasolini et connue donc de tous au moins à cause de son aura sulfureuse, tout insupportable qu'elle soit, laisserait cependant échapper l'essentiel de la violence de Sade, dans la mesure où le réalisme des pulsions sexuelles les plus morbides, le viol et la cruauté, au lieu de valoir pour elles-mêmes, s'y font métaphores politiques. Les tableaux que propose l'écriture sadienne, réinterprétée par Pasolini, deviennent une fable, un conte moral, comme le montrent les plans de fin, où le regard du spectateur se superpose à celui du libertin, toute distance abolie entre l'objet regardé et le regardant, confrontant ainsi le spectateur à la violence inhérente à son propre regard. Buñuel, quant à lui, distille dans toute son œuvre une influence sadienne et transpose en particulier des éléments des 120 journées dans son film L'âge d'or, paru en 1930. Avec ce film, il choisit de s'éloigner de Sade pour mieux parvenir au cœur d'aspects essentiels de son œuvre, notamment le blasphème et la révolte contre l'ordre social établi. Cette adaptation métaphorisée exploite par une écriture radicalement différente parce que surréaliste, la grammaire propre au cinéma, montage en tête. La force de la suggestion qui crée dans le regard du spectateur des associations qui peuvent être tout aussi brutales que certains tableaux crus de l'œuvre sadienne semble alors se faire la reprise de cette écriture. Mais en s'en éloignant aussi drastiquement, en traduisant par la métaphore la transgression et la violence sexuelle, l'âge d'or ne peut s'empêcher de mettre également de côté la violence fondamentale de Sade. Cependant, malgré tout, la grande surprise que nous réserve cet essai est de nous faire envisager le cinéma surréaliste comme le plus à même de répondre à l'œuvre de Sade. Brodesco tient le lecteur en haleine, l'emmenant dans un labyrinthe d'images qui, superposées les unes aux autres, aboutissent à une grande frustration, mais une frustration féconde. Le passage entre l'univers littéraire sadien et celui du cinéma imposerait une modification fondamentale de sa grammaire, et alors en filigrane se lit que cette réflexion sur l'œuvre sadienne et le travail pour l'adapter au cinéma pourraient être les garants d'une liberté que nous aurions peut-être de plus en plus de mal à saisir, pensée subversive et audacieuse qui n'est pas pour nous déplaire. Il faut saluer également le travail minutieux et précis effectué par Brodesco sur le contexte des œuvres citées, notamment les œuvres surréalistes, leur genèse, leur réception, fourmillant de détails qui raviront les lecteurs tant cinéphiles que néophytes. Et pas d'inquiétude pour ceux qui seraient plutôt tentés par la perversion qui souvent se pense en miroir au monde sadien, les éditions Rouge Profond rééditent en parallèle Le masochisme au cinéma, ouvrage de Jean Streff paru initialement en 1978.
Merci Sophie-Catherine Gallet sur cette musique de l'âge d'or qu'on peut voir en ce moment dans l'indispensable rétrospective Louise Buñuel à la Cinémathèque française. Il y a même les chutes de l'âge d'or proposées sur la plateforme numérique Henri de la Cinémathèque française depuis mercredi. Je rappelle que Sade et le cinéma d'Alberto Brodesco est édité par Rouge Profond et vous l'avez dit, pour faire bonne mesure, Rouge Profond réédite également le très culte Le masochisme au cinéma de Jean Streff, interdit à sa parution en 1978. C'est Jack Lang qui l'a libéré au début des années 80. Le tout avec une préface de l'ami François Angelier. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Cédric Chatelus. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Laurent Paul Ré. La semaine prochaine, nous recevrons dans Plan large le cinéaste Jean-Pierre Liedo pour son documentaire Fleuve Israël, le voyage interdit. Il viendra normalement accompagné de sa productrice et monteuse Ziva Pérez. Postetch, qui n'est autre que la monteuse du Shoah de Claude Lanzmann. Et Mathieu Macheret nous parlera, lui, de la mythique trilogie de Cocker d'Abbas Kiarostami. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, Toute une vie, présentée par Christine Bernard.